Seigneur, garde-nous attentifs au contenu de ta parole, de celle que tu as mise à notre disposition pour que nous soyons guidés dans notre propre vie. Garde-nous pendant cette soirée ainsi que tous ceux qui ne sont pas avec nous ce soir. Amen. Ok les amis, mais voilà, on va peut-être commencer par la lecture du texte, c'est-à-dire une dizaine de versets. À partir du verset 34, nous sommes toujours dans le chapitre 10, interminable.
On touche à la fin.
On touche à la fin. Voilà, donc versets 34 à 43.
Il n'y a personne qui se décide. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Mais qu'en toute occasion, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.
Merci, merci. Voilà, donc peut-être une petite intro pour ce soir. Donc avec le récit qu'on a là sous les yeux, on peut dire que Pierre entame officiellement la mission qui était de rendre les communautés messianiques accessibles aux païens. Ça, c'est vraiment la première grande rencontre avec des païens. Jusque-là, ça a été des auditoires mélangés. Par exemple, en Samarie, on parlait autant à des juifs qu'à des païens. Mais ici, c'est vraiment cibler le monde païen. Et ça, ça représente quand même une véritable révolution au sein du judaïsme, en tout cas, et au sein même de la communauté messianique. Révolution aussi pour le monde entier, puisqu'à partir de maintenant, les peuples de toutes les nations sont et seront appelés au salut. On peut même préciser que la grande moisson du Messie a commencé par cette rencontre avec Corneille et ses invités. Voilà, alors on peut se reporter à notre questionnaire. La première de nos questions concernait les versets 34 à 35, où je vous demandais qu'est-ce qu'on peut déduire de ces deux versets.
Je crois que Pierre réalise à ce moment l'ouverture de Dieu. Quoi.
Oui.
Il annonce que maintenant, ce n'est plus seulement pour le peuple juif. Donc, c'est le début de l'ouverture aux nations.
C'est quelque chose de tout à fait nouveau, en tout cas.
Il le dit, il n'y a pas de favoritisme.
Ce que j'aime bien, c'est qu'il dit je reconnais. Donc, il a dû faire
un travail. Hein. Oui, oui.
S'investir personnellement. Là, il s'est rendu compte de quelque chose. Il aurait pu savoir, mais qu'il ne savait pas.
Quand on voit que la vision, ça l'a quand même beaucoup travaillé. Même peut-être son voyage pour aller à Césarée lui a permis de constater certaines choses. Mais là, je crois quand même que la rencontre, vous vous souvenez de ce passage, le moment où il découvre l'auditoire, ça c'est quelque chose qui a dû lui parler très fort sur la nécessité de faire entrer les païens dans la communauté messianique, par exemple.
C'était d'abord intellectuel.
Oui, c'était plutôt intellectuel au départ, puis maintenant ça devient quelque chose
comme on dit, ça passe de là à là.
Qui doit rejoindre le normal. En même temps, il fallait peut-être découvrir que ces deux versets c'est une sorte, alors c'est un terme un petit peu bizarre, mais les commentaires parlent d'exorde, mais exorde, personne ne sait ce que c'est, donc il faut aller voir au dictionnaire. Parlons d'entrée en matière. Donc on n'est pas dans le cœur du discours, on est dans une sorte de préliminaire au discours, où il communique à son auditoire son propre changement de perspective, on va dire. Mais il n'est pas encore en train d'argumenter sur ce que Dieu lui a prescrit de dire à cette assemblée. Il est encore dans le jeu, dans le côté un peu personnel, émotionnel. Il réagit à la fois à la vision, puis à l'auditoire qu'il avait là sous les yeux. Et son vrai discours va commencer au verset 36, en réalité. Alors vous vous souvenez sans doute que on a déjà vu l'expression « Pierre ouvrant la bouche » ou « ouvrit la bouche », qui est une manière un peu solennelle de dire « ce que je vais dire est important hein, ». Quand on a ce genre d'expression-là, on l'avait vu en 8.35 à propos de la prise de parole de Philippe devant l'eunuque éthiopien. Hein, oui. Philippe ouvrit la bouche, c'est-à-dire il va quand même dire quelque chose de très très important auquel il faut être attentif, autant celui qui vit l'événement que celui qui lit l'événement. Donc ça souligne toute l'importance du propos. Et c'est un peu solennel aussi, d'une certaine manière. D'autant plus que c'est la première prédication de Pierre à des païens.
Pour Jésus, là aussi, je pense qu'il y a des
oui,
des
oui, chaque fois, notamment dans Jean.
Jésus ouvrant la bouche, dit...
Oui.
Oh, mais en général, quand il y a cette expression qui est très hébraïque, ça veut dire, attention, c'est important, ce qui va se dire, là, ce qui va se partager. Alors bien sûr, comme vous l'avez vu dans ces deux versets, il y a le soulignement de nouveau de l'impartialité de Dieu. C'est-à-dire finalement, Dieu ne fait pas de jugement sur la culture, la société, la richesse, ou je ne sais trop quoi, la race, la langue. Et donc Dieu a toujours été un Dieu pour l'humanité. Et d'emblée, donc Pierre, dans ce verset 34-35, dit... au fond, Dieu ne fait pas de différence entre les êtres humains, peu importe l'origine ethnique, la situation sociale ou la langue. Ça, c'est la première partie de son discours. La deuxième étant de dire, mais maintenant, tout homme qui craindrait Dieu dans le sens de le respecter, tout homme qui craint Dieu et l'honore par conséquent, qui pratique la justice, donc qui met en application ce qu'il croit de Dieu, ce qu'il sait de Dieu, celui-là est accueilli. Alors, les versions diffèrent très fort. En grec, c'est effectivement, comme dans ta version, « lui est agréable ». Vous vous rappelez cette notion d'agréable dans l'Ancien Testament, hein, les sacrifices de bonne odeur, tout ça, c'est le côté agréation. C'est un peu la même chose ici. Et en clair, donc, Pierre est en train de dire à son auditoire que la foi en Jésus purifie véritablement le cœur des hommes. Sous-entendu, pour le juif qu'il est, la loi et les sacrifices ne sont pas ce qui purifie définitivement l'homme, puisqu'il faut les répéter constamment et revenir constamment. Et donc ces deux versets représentent une entrée en matière assez solide par rapport au corps du discours qu'on va regarder. Et le but de cette espèce d'introduction, c'est quand même de rendre gloire à Dieu. D'une certaine manière, il dit, mais on a un Dieu extraordinaire qui est toujours du côté de l'humain, pas du côté des juifs ou du côté des méchants, mais du côté des deux, qui acceptent autant les païens qui le cherchent que le juif qui ne l'a pas cherché. Voilà, en gros, c'est un peu ça qu'il est en train de leur dire, comme manière d'entrer dans le discours. Et puis à partir du verset 36, alors il va commencer son message. D'ailleurs, le verset nous le dit, je crois, en tout cas dans la top, ça commence par son message, sous-entendu le message de ce Dieu impartial, hein. Et que nous dit-il alors?
Il fait comme toute une récapitulation depuis le baptême de Jean-Baptiste et jusqu'à sa résurrection.
Jusqu'à sa résurrection. Donc on
et même ses apparitions aussi.
On est effectivement dans ce discours de Pierre, un récapitulatif. Alors on doit de nouveau peut-être se mettre dans l'idée que Luc ne rapporte pas chacun des propos de Pierre. C'est vraiment un condensé de la prédication de Pierre, qui d'ailleurs, nous le verrons la prochaine fois, n'est pas terminée. Donc un peu comme l'histoire d'Étienne, quoi. Étienne n'a pas fini son discours, paf, on l'assassine. Et bien ici, il n'a pas fini son discours que le Saint-Esprit va intervenir, comme on le verra la prochaine fois. Et donc le message dont il est question en grec, c'est excessivement clair, puisque c'est ton logon qui est utilisé avec l'article, c'est-à-dire la parole par excellence, la parole sous-entendue de Dieu. Il s'agit d'un message délivré par Dieu, qu'il a d'ailleurs délivré dans le passé, si vous regardez bien ce qu'il est en train d'argumenter.
Au fils d'Israël.
Au fils d'Israël. Donc on parle de l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël. Message annoncé, on pourrait presque dire premièrement, aux Israélites. Et quel est ce message ?
La paix.
Pour moi, c'est l'évangile, la bonne nouvelle.
Que Jésus, la bonne nouvelle de la paix.
La paix.
Exactement.
Par Jésus.
Exactement. Donc ça, c'est ce que le texte nous dit. Sous-entendu, la paix que Dieu veut établir entre lui et l'humanité. Alors, les Juifs, eux, n'ont pas compris que c'était via le Messie, en tout cas via Jésus. Ils espèrent toujours cette réalisation. Mais ici, il est en train de dire à des païens qu'un certain Jésus de Nazareth est la concrétisation de cette promesse faite dans l'Écriture juive sous-entendu, hein, puisqu'à l'époque, le Nouveau Testament n'existe pas. Et qu'il va donc réaliser la promesse qu'il a faite à Abraham. On est de nouveau dans cette notion qu'on avait vue dans les textes passés. Et si vous vous souvenez bien, on est exactement dans le vocabulaire de l'annonce qui est faite au berger, au moment de la naissance de Jésus. Hein ? Paix, c'est le grand
paix
thème
aux hommes de bonne volonté.
Et encore une fois, c'est pas paix aux Juifs, vous voyez, dans les évangiles. Donc c'est à l'humanité tout entière que s'adresse le message, au travers du peuple d'Israël, par le canal du peuple d'Israël. Et parfois, dans l'Église, on a beau jeu de dire... Oh, mais les Juifs n'ont pas fait leur boulot. Ben alors, moi, de rétorquer, ben, comment t'es devenu chrétien, alors ? Si les Juifs n'ont pas fait leur boulot, je me demande comment tu peux devenir chrétien. Donc, nécessairement, si on l'est aujourd'hui, si on a de grandes familles chrétiennes, c'est parce que les Juifs ont quand même été fidèles à la Torah, à la notion qu'ils avaient de Dieu, et que ce Dieu a séduit les nations. C'est-à-dire, voilà, il y a des gens qui se sont tournés vers ce Dieu d'Israël. On en a parlé la fois prochaine, je ne vais pas revenir tartiner le bazar.
Mais... Même avant Jésus, hein, puisqu'il y avait les prosélytes.
Bien sûr, il y avait déjà du temps du judaïsme pur et dur, des païens qui se sont tournés, voire même circoncis, donc convertis au judaïsme. Donc voilà, on est devant cette œuvre-là, et il se trouve que dans l'Ancien Testament, cette œuvre-là en particulier est celle du Messie. Celui qui apportera la paix messianique, entre guillemets, c'est le Messie. Et on trouve ça essentiellement dans Ésaïe. Alors, je pourrais vous citer les références, mais dans plusieurs passages d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 9, par exemple, dans les versets 5 à 6, chapitre 52, ou versets 7 et suivant, il faut toujours prendre ce qui englobe, hein, 57-19, et puis toujours dans Ésaïe 59 verset 8 où il est question de cette paix qui sera apportée par le Messie, et un autre petit prophète qui a toujours un petit équilibre entre Ésaïe et d'autres petits prophètes, Michée au chapitre 5 verset 4 qui annonce exactement la même chose. Alors moi, ce qui m'a quand même frappé là avec ce verset 36, c'est que Pierre commence par son message, ce qui laisse quand même entendre, la concision des termes, hein, laisse quand même entendre que l'auditoire, composé de craignants Dieu, sait de quel message leur invité parle. Sinon, il aurait dû expliquer. Vous voyez, il aurait dû, avant de parler de message, expliquer de quoi on allait réellement parler. Et je pense que ça va de soi, puisque si ce sont des craignants Dieu qui sont devant lui, même s'ils ne sont pas circoncis, ils vont donc à la synagogue. Or, à la synagogue, chaque année, en l'espace d'une année, on couvrait toute la Torah. Donc la lecture publique de l'écriture était faite de telle manière qu'en un an, un cycle complet, c'est d'ailleurs le cas encore aujourd'hui, hein, dans tout le système synagogal, qui est d'étudier la Bible chaque année en entier. Peut-être que l'Église devrait un peu s'en inspirer de temps en temps. Ça ne nous ferait pas de mal, je crois.
Depuis le concile,
on a quand même fait énormément de progrès.
Mais heureusement. Non, mais heureusement, même du côté protestant. Je veux dire, quand même, on n'a pas cette rectitude de se dire que chaque année, il faudrait quand même s'imprégner de l'ensemble de nos connaissances bibliques. C'est parfois portion assez congrue quand même. Je ferme la parenthèse un petit peu mesquine de ma part.
En même temps, ils ont moins.
Pour revenir au vif du sujet. Oui, un peu moins.
Et quoi, c'était pas pour eux que c'était les cinq livres où ils lisaient tout.
Ah non, non, ils lisaient les prophètes aussi.
Alors c'est quand même.
C'est un peu plus que nous, à mon avis.
Bah oui, à mon avis aussi.
Alors, une deuxième chose, je crois qu'il faut souligner par rapport à cette idée de message adressé aux Israélites, sous-entendu premièrement aux Israélites, on pourrait se dire, oui, mais alors, pour un Dieu qui est impartial, c'est quand même bizarre. Pourquoi il ne délivre pas son message à tout le monde, hein, au monde entier? Il en a les capacités pour envoyer ses anges, etc. Oui, c'est vrai, à la seule différence près que si le message est adressé à un peuple, notamment au peuple élu, c'est-à-dire les Israélites, ce n'est pas par discrimination négative, mais parce que c'est au sein de ce peuple que le Messie doit apparaître. C'est de ce peuple que sortira le Messie. Et donc, Israël, c'est un peu qu'une pédagogie, si vous voulez. Israël était obligé pour lui-même d'apprendre et d'entendre et de répéter que la paix serait établie par un Messie qui viendrait de leur propre rang. Donc l'idée que Israël n'a pas accompli sa mission auprès des nations n'est pas tout à fait vraie, puisque finalement, ce qu'Israël attendait, c'était le Messie, et que le Messie fasse le job pour les nations. Pour nous, c'est accompli. Pour eux, ça ne l'est toujours pas vraiment, mais ils l'attendent, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est un peu ce qu'il faut comprendre dans cette espèce de préséance des Juifs, ici, des Israélites, dans la réception du message. Mais au fond, c'est tout bénef pour nous, les païens, qui avons pu bénéficier au travers du peuple d'Israël de ce message et surtout de leur Messie. Et c'est donc juste après ça que, alors c'est un peu étonnant évidemment, Pierre nous dit, quel est le message qui a été délivré aux Israélites? La bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Alors nous, évidemment, on sait très bien qu'on n'a jamais évoqué Jésus dans l'Ancien Testament, en tout cas pas par son nom. Mais par contre, ce que nous prenons pour un prénom Jésus-Christ est en fait tout simplement Jésus le Messie, si on traduit littéralement Jésus l'élu. Donc nécessairement, on peut s'accommoder ici en disant, mais voilà, oui c'est vrai, les Juifs savaient que via le Messie, celui qui serait élu, le Fils de l'homme, entre autres chez Daniel, ben, tous les peuples, tous les hommes auraient accès au Seigneur. Et c'est pourquoi Pierre peut dire que Jésus est le Seigneur de tous les hommes. Donc il n'était pas dans l'esprit de Dieu qu'il y ait un salut pour les Juifs et pas pour les nations. Il a toujours été question d'un salut global pour l'ensemble de l'humanité. Sauf que voilà, ce n'était pas comme nous l'imaginons. Et il fallait toutes ces péripéties autour de l'œuvre de Jésus. Alors, la deuxième question, Oui, donc Pierre présente Jésus comme Seigneur de tous les hommes. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Parce que nous, on l'entend bien, évidemment.
On est tous des frères.
Alors, il y a déjà cette dimension que si c'est vrai que le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur de tous les hommes, par conséquent, on n'est plus séparés. On n'est plus d'un côté les Juifs et d'un côté les païens.
On forme un seul temps, peuple, quoi.
Oui, le peuple des rachetés, parce qu'eux aussi sont sauvés. Et nous le sommes, grâce à eux. Et puis, peut-être aussi l'idée d'une certaine égalité en humanité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des surhommes qui seraient les Juifs et des sous-hommes qui seraient les païens. Il y a toujours été question d'une humanité une et indivisible, sauf que les missions sont différentes en fonction. Et nous, nous avons la fonction, en tant que gentils païens, de rendre gloire à Dieu pour l'œuvre exécutée dans Jésus, le Messie d'Israël, premièrement, puis notre Messie. Voilà. Donc il y a toujours une sorte de redevabilité des païens envers Israël.
J'ai pensé aussi que, puisque l'Assemblée, c'est des gentils, pour eux, d'entendre ça, eux qui étaient des Romains, ça veut dire que s'il est le Seigneur de tous les hommes, il n'y en a qu'un. Alors. Ça veut dire que toutes les autres religions les païennes doivent accepter qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est le Dieu d'Israël, Père de tous.
Exact, très bien. Quoi d'autre ? Donc là, tu as parfaitement raison. Hein. C'est la révélation qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
Ça veut dire que l'humanité ne dépend que d'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre.
Exact.
Alors qu'eux, ils en avaient une.
Ouf, à foison. Oui, ben, surtout Rome. Rome ouais. Adoptait toutes les divinités de tous les pays qu'ils avaient conquis. Donc c'est pas trop difficile, quelque part. Plus leur dieu César,
pour eux,
évidemment.
Ça, quand même, parce que enfin, c'est un peu comme partout, quand on va dans les peuples qui ont un autre dieu ou des dieux, devoir tout abandonner de ce qu'ils connaissent pour un seul, c'est quand même pas évident, il faut bien dire ce qui est.
Oui, puis pour Rome, n'oublions pas que César, c'est Dieu.
C'est Dieu,
c'est un peu difficile à avaler quand même, même pour les Romains.
Déjà du temps de Daniel, c'était un homme dieu.
Donc finalement, on entend aussi derrière cette déclaration que ce fameux Jésus, dont il va un peu détailler les choses par la suite dans son discours, ce fameux Jésus qui était un homme, ben il est Dieu alors. S'il est le Seigneur de tous les hommes, c'est pas un Seigneur charnel et historique, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui dépasse de loin la corporité humaine. Donc c'est Dieu, il fait partie de Dieu, il est Dieu d'une certaine manière. Donc c'est de nouveau une manière de déboussoler certainement, ou de convaincre les Romains qu'être craignant Dieu c'est bien, mais connaître le vrai Dieu à travers de qui il est, c'est encore mieux. Et c'est en même temps une bonne nouvelle, parce que jusque-là, on voit bien que Corneille était en attente de quelque chose de nouveau, puisqu'il attend de Dieu un éclairage sur la manière de pratiquer, en tout cas. Et donc, eux, qui, jusqu'alors, ces craignants Dieu, qui respectaient, on peut dire aussi bien le Dieu d'Israël que les Juifs, on l'a vu dans l'histoire de Corneille, bénéficient maintenant des mêmes droits que les Juifs, au travers de la prédication de Pierre, j'entends. Hein. Donc, quelque part, eux qui étaient un peu des spectateurs du dehors, vous voyez, qui allaient à la synagogue pour entendre et voir ce qui s'y passe, qui pratiquaient l'aumône, etc., eh ben, tout d'un coup, ils vont se retrouver en première ligne, parce qu'ils vont devenir les frères des Juifs, avec lesquels ils vont pratiquer dorénavant à l'avenir dans des communautés messianiques. Fils du même père. Ce ne sont plus eux qui ont adopté le Dieu d'Israël, mais c'est Dieu qui les adopte profondément. Ils deviennent donc, comme tu l'avais dit tout à l'heure, membres à part entière de ce peuple, c'est-à-dire le peuple des rachetés de l'humanité. Puisqu'on voit bien l'insistance dans le début du discours sur « on est tous des hommes ». Et rappelez-vous, la dernière fois, Pierre qui disait « Je ne suis qu'un homme » quand il s'adresse à Corneille. Eh bien, il y a un peu de ça, une idée de rachat commun qui devient le lot commun, aussi bien des Juifs que des non-Juifs. Et puis, on verra dans les versets suivants ce que l'assistance pouvait vraiment comprendre, ou connaître d'ailleurs, de ce fameux Jésus de Nazareth. Parce que c'est quand même une des questions qui, en étudiant le texte, m'est tout de suite sauté aux yeux. je me disais, mais si j'étais à la place de Corneille et des invités, est-ce que je sais qui est Jésus de Nazareth ? Parce que alors, à quoi bon prêcher un Jésus qu'il ne connaîtrait pas du tout, hein ? Et donc on va essayer de creuser un peu au travers des versets 37-38, au travers de la question qui consistait à étudier les fameuses déclarations « Vous le savez » ou « Vous savez », ben justement, qu'est-ce qu'elles savent ? Ça serait intéressant d'en déduire quelque chose. Qu'est-ce que cette assemblée de païens pouvait connaître de Jésus ?
Ce que j'ai bien aimé, moi, au début, c'est que ça me fait penser à Jean, évidemment. Hein. Il a envoyé qui ? La parole. Et la parole était Dieu, et la parole, tu vois. Ça fait vraiment penser au début de l'évangile de Jean. Pas il a envoyé Jésus, il a envoyé la parole. Jésus. Ouais. Mais bon, c'est la manière dont c'était écrit que ça me fait penser à ça. Quoi.
Alors d'après vous, qu'est-ce que ces braves gens pouvaient savoir de Jésus ?
De tout ce que Jésus a fait. Alors lors il a parcouru le pays,
ses guérisons.
Et avant lui, Jean le Baptiste, il avait annoncé Jésus déjà, et aussi les gens sont venus vers lui pour se repentir. Et ils ont dû voir ça et entendre ça.
Alors en tout cas, il est quand même. Je pense que Pierre nous met devant une certaine difficulté dans ce discours. Parce que, d'un côté, il fait le présupposé que son auditoire connaît un minimum de Jésus, mais en même temps, il ne sait pas jusqu'où ils connaissent Jésus. Mais ce qui peut être plus que probable, c'est que ce fameux rabbi Yeshua de Nazareth était connu des Romains. La preuve, c'est qu'il a été crucifié par les Romains. Donc, ignorer qu'on a crucifié quelqu'un qui avait une certaine vocation prophétique, voire messianique, qui a été rabbi pendant X années, qui a parcouru la Galilée, la Samarie, la Judée, tout le pays entièrement. Pendant 3 ans, il n'arrêtait pas de voyager d'un point à l'autre, de parler aux gens, de faire des choses un peu extraordinaires. Oui, c'est vrai, ce serait assez bizarre qu'il n'en ait pas entendu parler. Maintenant, ce que l'on peut concevoir, c'est que ces païens, craignant Dieu, allant dans des synagogues juives, ne connaissaient que l'homme, l'homme Jésus. Ce qu'ils en ont entendu dire, c'est comme moi, je lis le journal, la petite nouvelle du jour, etc., un tel a fait telle chose, ok. Mais de là, imaginez que ce Jésus de Nazareth, ce rabbi, est le Messie, est celui qui correspond aux prophéties de l'Ancien Testament, il n'en avait aucune conscience, d'accord ? Donc jusque-là, on peut encore comprendre le premier « vous le savez », mais probable aussi qu'ils étaient eux-mêmes un petit peu au courant que cet homme a compati aux souffrances de pas mal de gens, dont des Romains. Il a quand même posé aussi des actes pour les nations pendant son ministère, et il a guéri des gens, etc., etc. Donc ça, le bouche à oreille, surtout en Orient, c'est quelque chose d'incroyable. Croire que Corneille et ses amis n'ont jamais entendu parler de Jésus, c'est quasi impossible. Alors donc, oui, pour faire bref, le Jésus historique et ses actions sont vraisemblablement connus, mais plutôt dans le cadre de son humanité, de son rôle de rabbi, si vous voulez, pas en tant que Messie d'Israël et des nations. Peut-être même que certains d'entre eux, parmi les invités, ont pu croiser son chemin une fois ou l'autre, dans une synagogue ou dans un des faits, miracles, des événements, au travers de ces 3 années de ministère dans le territoire de la Palestine. Du coup, la deuxième, au verset 38, « Vous savez », est assez justifiée par le fait que l'assistance pouvait tout à fait connaître l'aura de ce rabbi de Galilée, c'est-à-dire son onction, pour reprendre les termes, sa puissance au travers de ses enseignements, au travers de ses miracles et surtout au travers de sa contestation du pouvoir. Il faut bien le dire, en Judée, particulièrement à Jérusalem, Jésus n'est pas le bienvenu. Parce que chaque fois qu'il vient, il faut une tarte aux religieux. Donc chaque fois qu'il vient, les religieux vont un peu se plaindre aux Romains en disant « Vous devriez l'avoir à l'œil, celui-là, parce qu'un jour, ça va péter. Ça va vous péter au nez. » Donc on imagine bien que c'est impossible qu'il n'ait pas entendu parler de ce fameux Rabbi Yeshua. En outre, nous ne devons pas oublier où se situe l'événement ici, à Césarée, c'est-à-dire le cœur administratif, politique et militaire des Romains de toute la Palestine. Donc, ne jamais rien avoir entendu sur ce Jésus de Nazareth est tout à fait impossible, tout simplement. Ce personnage avait fait grand bruit depuis le début de son ministère jusqu'à la fin de son ministère. Donc oui, on peut imaginer que l'auditoire a une certaine conscience et font le lien alors « Ah oui, c'est ce rabbi-là dont tu parles ». Vous voyez ce que je veux dire? Ils font le lien entre le rabbi historique et puis ce que Pierre est en train de leur présenter qui semble être, oui, ce Jésus de Nazareth, c'est ce qu'il va détailler maintenant dans la suite du discours, c'est celui qui correspond aux prophéties, c'est ce qu'il va essayer de leur dire. Voilà. Cinquième question, c'était un peu sur le comment l'événement, pour reprendre les termes, a commencé, comment ça s'est exprimé. Et je crois que c'est Anne-Marie tout à l'heure qui avait commencé un peu à détailler. Donc ça a commencé par le fameux baptême, ça a commencé par la prédication de Jean, le Baptiste, prédication à toute la nation. Repentez-vous. Attention, le Messie arrive, etc. Vous voyez ? Puis il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Ça, c'était le point de départ.
Le baptême de Jésus.
Alors,
dans son Esprit Saint.
Alors, chez Luc en particulier, Luc a toujours fait le lien entre le baptême de Jésus et l'onction. Donc, la réception du Saint-Esprit et de toute la mission messianique de Jésus se situe au moment de son baptême. D'ailleurs, on pourrait faire la lecture, si on a le temps, dans Luc 3, puisque c'est là que ça se passe, les versets 21-22, où là, je pense que dans les Actes, avec son histoire d'onction, Luc fait référence à ce qu'il a lui-même écrit au sujet de cette fameuse onction. Ça vaut la peine, peut-être, si quelqu'un l'a sous les yeux. Donc, troisième chapitre de Luc, versets 21 et 22.
Or, quand tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, priait. Alors le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. »
Mais vous vous rappelez sans doute aussi ce passage dans les évangiles où Jésus est à la synagogue et puis on l'invite à lire le texte et lit justement le texte qui le concerne lui, hein, celui qui a été choisi, etc. etc. Dans Ésaïe, il faisait référence à Ésaïe 61. Et donc Luc fait une allusion ici très claire au baptême de Jésus, considéré comme le signe de son onction, c'est-à-dire de son élection, de son statut de Messie, comme le rapporte d'ailleurs Luc lui-même, un peu plus tard dans le quatrième chapitre, si tu as là encore le texte sous les yeux, quatrième chapitre, les versets 18 à 21.
Ah mais là, oui, donc, je vais commencer par le 17 quand même.
Comme tu veux.
On lui donna le livre du prophète Isaïe, et en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur.
Pourquoi j'insiste sur l'idée que Luc fait référence à Luc ? Parce que si vous vous souvenez du tout début, c'était le même livre. Donc Luc et Actes n'étaient pas séparés en deux bouquins. Ça faisait partie d'un même parchemin. Et résultat, donc, c'est un peu logique que Luc sait ce qu'il a écrit avant et qu'il y fasse référence sans citer nécessairement la source en question. Et voilà qu'il parle, et ça m'a aussi un petit peu étonné, cette manière de dire, quand il dit, attendez que je retombe sur le verset, que Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Et qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce mot puissance ?
Que les esprits lui sont soumis. À la rigueur, nous, on peut déduire que le diable a dû aussi se soumettre. C'est aussi peut-être une idée de tout ce qu'il a pu faire avec puissance dans les guérisons et les délivrances.
Tout à fait. Donc, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le discours. Après, c'est un peu comme s'il ouvrait une parenthèse, en parlant de son rôle de bienfaiteur. Littéralement, en grec, c'est « faisant le bien ». Mais donc, l'onction et la puissance vont ensemble. C'est deux facettes d'une même pièce, si vous voulez. On ne peut pas être élu et puis ne rien avoir à faire et ne rien démontrer, et vice-versa. Donc, la puissance, elle implique tous les rôles qu'il a assumés en faisant du bien. Alors on peut penser aux guérisons, on peut penser aux résurrections, les réanimations de morts, on peut penser aux exorcismes, on en a quand même plusieurs exemples, aux guérisons un peu spectaculaires. Et d'ailleurs le texte va préciser, toujours au verset 38, qu'il guérissait tous ceux, alors dans ma version Tob avec Brigitte, on lit la même chose, que le diable tenait asservi. Mais en fait en grec c'est beaucoup plus intéressant.
De l'esprit du mal.
Oui, ça rejoint déjà mieux le grec. Est-ce qu'il y a une autre version ?
Sous l'empire du diable.
Sous l'empire du diable. Non, mais en grec, c'est littéralement guérissant tous ceux qui sont tyrannisés par le diable. Dans le sens qu'on peut entendre, derrière le mot tyran, tyranniser quelqu'un. Donc au fond, qu'il s'agisse de maladies physiques, mentales, parce qu'il a quand même guéri aussi des gens qui avaient quand même un petit grain, ou de possession démoniaque. Dans tous les cas, on est devant un acte de guérison, c'est-à-dire de salut, puisqu'en hébreu, un peu moins vrai en grec, mais en hébreu, c'est, en araméen, c'est très clair, guérison égale salut, salut égale guérison. C'est la même chose, c'est le même mot qui est utilisé. Eh bien, il en va de même, finalement, globalement, du péché. Le péché, c'est une maladie mortelle. Donc, Jésus prend à cœur son rôle qui est de sauver ceux qui sont tyrannisés par le diable. Et tyranniser, c'est un mot qui illustre bien de quel pouvoir il s'agit. Ce n'est pas un pouvoir positif. Tyranniser quelqu'un, c'est infliger un joug, c'est l'obliger, c'est le contraindre, c'est finalement, c'est lui nuire. Donc on voit bien que l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du diabolos, celui qui divise, c'était de nuire aux humains parce qu'ils sont créatures de Dieu. S'ils n'avaient pas été créatures de Dieu, est-ce que le diable a tyrannisé le monde animal ? Ben non, pas spécialement, parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas des hommes. Mais à partir du moment où l'homme, lui, peut être séduit, manipulé, manipulable, c'était la meilleure option pour détruire l'œuvre de la création. Donc il s'attaque à l'homme parce qu'il est la clé de l'ensemble de ce qui est la création. Et c'est la raison pour laquelle le grec utilise un mot très fort. Le verbe tyranniser, c'est un mot très très fort. Et on se rend compte aussi que finalement, l'œuvre du diable, c'est l'opposé de l'œuvre du Messie. Totalement, quoi, tout à fait l'inverse de l'œuvre messianique. Lui, il veut du pouvoir sur les êtres pour les utiliser, les manipuler, les broyer, voire les anéantir, alors que
Dieu libère,
à contrario justement de tout cela. Et alors c'est là qu'après avoir développé cette partie-là de son message, il va insister un peu sur leur rôle, c'est-à-dire les anciens disciples, leur rôle de témoin. Et donc, on avait une question qui était là-dessus. J'avais posé une question avant sur...
la 7.
Oui. La 7, c'est celle qu'on vient de superviser. Bon, donc la 8, c'était lui qu'ils ont supprimé. Et je posais la question, c'est qui il ?
C'est sur les religieux juifs. Ils viennent parmi les juifs de Jérusalem.
Donc.
Les Romains. Ce sont des Romains.
Alors, justement, ce qui est très intéressant, c'est que Luc, dans l'ensemble du livre des Actes, dans cette partie de son livre, n'impute jamais aux Romains la mort de Jésus. Donc, chaque fois que Pierre prend la parole, il impute la mort de Jésus aux Juifs. C'est-à-dire à eux-mêmes, sous-entendu. Et ici, le passage ne fait pas exception. Les autres passages dans les Actes, c'est chapitre 2, verset 23, on l'a déjà vu, ou chapitre 3, dans les versets 13 à 15, ou prochainement, en dehors de notre chapitre 10, le chapitre 13, verset 28, chaque fois, il y a l'emphase qui est mise sur la responsabilité des Juifs. Et je dis la responsabilité parce que sinon, on irait trop loin. Je ne dis pas de parler de déicide, comme l'ont fait beaucoup au travers de l'histoire. Donc, les Romains ne sont jamais cités en première ligne, car sans l'accusation première des Juifs, sous-entendu, et des religieux, c'est-à-dire, n'oublions pas, là aussi ça doit être une manière d'apprécier Israël autrement, les Juifs qui ont condamné Jésus, c'était des collabos. Et pour certains, ce n'étaient même pas des Juifs, ceux qui dirigeaient. Donc attention, quand on parle des Juifs en général, pour parler de la mort de Jésus. Donc au fond, les Romains ne sont jamais cités parce qu'ils ne sont pas en première ligne, parce que la condamnation vient d'une accusation venant du camp des religieux, et il n'y aurait pas eu de condamnation à mort s'il n'y avait pas eu cette « délation », entre guillemets, de ce fameux rabbi qui les embêtait bien, effectivement. Donc ça, pour eux, le problème était résolu.
Est-ce qu'on ne peut pas avoir le fait que Pilate a dit « j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher » Et alors, parce qu'il n'avait pas envie, il avait quand même entendu de bonnes choses.
Oui.
Et finalement, sous la pression de la foule, des Juifs, il a choisi de prendre le pouvoir de le crucifier. Bah, évidemment, Corneille et ses invités ne le savent peut-être pas. Mais bon, nous, parce qu'on a le texte, qu'on connaît l'histoire, ils ne sont pas si innocents que ça, les Romains. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu l'accusation, il n'y aurait pas eu la condamnation. Mais il n'avait pas envie de condamner Jésus. Le texte nous dit qu'il avait plutôt envie de le relâcher.
Oui,
Jésus lui a dit, si tu n'avais pas reçu le pouvoir de Dieu, donc c'est vrai, c'est d'abord les prêtres juifs et la foule, parce que la foule a demandé Barnabas aussi à la place. Les juifs ont quand même usé de leur autorité.
Exactement.
C'était le plan de Dieu, ça tout devait passer par là.
Et alors pour rejoindre Guy, dans ce que Guy a affirmé tout à l'heure, finalement... Grâce à Pilate, nous nous retrouvons parmi ceux qui ont condamné. C'est-à-dire solidaires du monde des païens que nous étions. Nous avons fait aussi l'option de dire « Ah oui, c'est peut-être plus facile comme ça. » Et sous-entendu, toute l'humanité, donc juifs et gentils, sont concernés et impliqués dans la mort de Jésus à cause de la nature pécheresse de l'homme, justement, à cause du fait que nous sommes manipulables et manipulés et que quelque part, on a préféré cette option à toute autre. Et quelles étaient les autres options ?
Libérer Jésus.
Pour les Juifs, reconnaître que Jésus était le Messie.
Ah oui, aussi.
Ça aurait solutionné une partie de leurs problèmes, déjà. Et pour nous, peut-être, alors, au travers de tout ça, reconnaître aussi en Jésus celui... Et puis ça ne s'est pas passé comme ça, parce que manifestement, le salut de l'humanité devait rencontrer le scénario qu'on a là maintenant, qu'on connaît nous maintenant. Parce que pour moi, je me suis toujours dit, quand j'étais jeune théologien déjà, je me suis toujours dit que si Jésus avait été reconnu de son vivant comme Messie...
Le connaîtrait-on encore maintenant ?
Ben oui, est-ce que ça aurait fonctionné ?
Ouais, donc on aurait peut-être besoin de le ressusciter, entre guillemets, déjà.
Il y a plein de choses qui font qu'il fallait vraiment que toutes les portes soient fermées pour que Jésus devienne vraiment le Messie. Si les portes étaient restées entrouvertes à certains moments, ça ne se serait pas passé de la même manière. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Donc en faisant en sorte que tout soit condamné, ça permettait le salut réel de l'humanité.
Parce que Dieu n'avait pas prévu tout ça.
Ah ben lui...
Il n'y a pas d'autre issue, disons. Tout était programmé, tout était fait par le Père. Quoi.
Et en même temps, il fallait que les hommes collaborent à ça. Je pense à Judas, je pense aux Romains, je pense... C'est vrai. Donc, nécessairement, pour que tout se fasse, il fallait aussi que certains hommes jouent le rôle qu'ils avaient à jouer. Et c'est pas simple.
Il y a une question qui me trottine. Là, les Juifs, il y en a encore qui ne l'ont pas encore reconnu.
Oui, Jésus, bien sûr.
Comme monsieur. Oui. Hein? Donc, il y a encore... Ils attendent toujours
le Messie.
Et qu'il devrait être ressuscité aussi.
Ah, non.
On ne sait pas.
Non,
pas pour eux.
Pas pour eux. Donc, ils attendent le Messie avant la fin du monde, alors.
Oui.
Donc, c'est possible.
D'ailleurs, aujourd'hui, si tu consultes tous les sites un peu juifs, tu verras que la grande question depuis le Covid, ça a commencé avec le Covid, beaucoup sont persuadés que le Messie arrive. Donc, tu vois, il faut vraiment le lien entre ce qui se passe maintenant dans le monde, pas seulement à cause de la guerre avec le Hamas, mais déjà depuis des années, c'est comme si les Juifs pressentaient que quelque chose tourne plus rond dans ce monde. Et donc, ils sont dans l'attente, vraiment. Ce n'est pas juste une attente intellectuelle. Ils aspirent, ils prient, ils s'attendent.
Donc, un Messie physique, je veux dire.
Alors, je ne sais pas comment ils l'imaginent, eux.
Oui, d'accord, mais c'est de comprendre un peu.
Et on arrive à la fin des temps, quoi. Pour eux,
En
6000...
S'il vient.
1800 et quelques, donc on arrive à la fin des jours pour eux.
Oh,
donc il doit venir. Parce qu'ils n'ont pas le même calendrier.
Ah, de toute façon, ils n'ont pas le même, ça c'est clair.
Alors, on est 6000 et quelques,
oui.
6700, enfin, oui. Ils attendent incessamment ce peu.
Ouais. Pour revenir à Pilate, Jésus lui a répondu que ceux qui livraient Jésus à Pilate commettaient un péché plus important que le sien.
Oui.
Donc Jésus a dit à Pilate, ceux qui me livrent à toi commettent un péché plus important que toi. Mais il n'a pas dit, toi tu ne commets pas de péché. Il a quand même dit, plus important que le tien.
Mais c'est
dans Luc. Où est-ce que j'ai vu ça?
C'est juste.
On ne rappelle pas de voir le sang.
Donc, il n'est pas innocent. Les Romains ne sont pas innocents. Mais bon, nous ne sommes pas innocents. Donc,
c'est ce qu'ils ont la vie. Justement.
Tout homme est pécheur. Donc,
c'est pour ça que le scénario était immuable.
Ouais.
Il fallait que ça se passe comme ça. Pour que tous nous soyons à la fois condamnés, reconnus coupables par le péché, celui qui nous unit, et pour que tous nous puissions être sauvés de la même manière. Bon, si tu retrouves la référence exacte, c'est bien.
Et tout ça par le sang versé, et sans effusion de sang, il n'y a pas de...
Pardon.
Donc il fallait, comme on sacrifie un agneau innocent, il fallait, au-delà de l'agneau innocent, il fallait quelqu'un de parfait.
Bon, si tu la retrouves d'ici la fin, c'est bien.
Je ne sais plus si c'est lui.
Ok, on va quand même continuer pendant que tu essaies de retomber dessus. Donc, on est plus ou moins au verset 39. Et on parlait de ce statut de témoin. Alors témoin, il faut savoir qu'en grec, ça veut dire c'est le même mot que martyr.
J'ai trouvé, c'est en Saint Jean.
Ah,
dans Jean.
Au chapitre 19.
Merci.
Donc à partir du verset 10, Pilate lui dit alors, c'est à moi que tu refuses de parler, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier, c'est ce qu'il a dit. Mais Jésus lui répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. »
Excellent.
Bien.
Je n'avais pas pensé à ça. Ok. Donc, on essaie de continuer un tout petit peu donc, sur le statut de ces fameux témoins. Donc, je rappelle qu'en grec, c'est le mot martyr qui est utilisé. Donc, voilà, témoin et martyr, c'est la même chose. Donc, à partir du moment où, dans nos milieux évangéliques en particulier, on parle de témoignage, on ne sait pas à quoi on se soumet en réalité, aux martyrologues. Hein. Voilà, donc quelque part, oui, témoigner, ça doit impliquer, il y a un prix à payer pour être témoin. Mais je voudrais alors surtout vous faire remarquer que les versets 39 à 41, ça représente une sorte de condensé de la prédication apostolique. Donc on peut imaginer que Pierre a développé cette partie-là, et qu'on n'a ici qu'un petit résumé. Surtout lorsqu'il parle de leur rôle à eux en tant que témoins. Et donc je vous avais posé la question, c'est qui les témoins ? Alors, on peut imaginer d'abord le groupe des 12, avant la perte de Judas. C'était déjà des témoins d'une certaine manière. Puis, bien sûr, tu as raison, les apôtres. À partir du moment où la résurrection est intervenue, un certain nombre d'hommes, 12 de nouveau, sont pressentis dans ce rôle de témoins. Témoins de quoi ?
De la mort et de la résurrection.
Exactement. Donc, témoin que Jésus a bel et bien existé, témoin qu'il est mort, témoin qu'il est ressuscité. Tout ça, évidemment, nous, on le sait. Et ça rejoint ce que Luc déclarait au tout début des Actes, dans le premier chapitre. Je vais quand même le lire, ça vaut la peine de voir qu'on a déjà... en fait, c'était déjà clairement annoncé au tout début du livre. Bon, dans le chapitre 1, si je ne me trompe pas, verset 21...
Acte
chapitre 1 à partir du verset 21, il dit ceci: il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête, à commencer par le baptême de Jean, jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Donc c'était au moment où ils allaient choisir.
Pour remplacer Judas.
Remplacer Judas. Donc on voit déjà que c'était très clair dans la tête de Luc qui sont les témoins et quel est leur rôle finalement. C'est ce témoignage de qui était Jésus et du pourquoi Jésus est venu, etc. Et puis il y a cette expression dans ce verset, c'est tout ce qu'il a fait, sous-entendu, le fameux Jésus de Nazareth, tout ce qu'il a fait. Et on peut se poser la question, c'est quoi tout ce qu'il a fait ? Il y a...
tout ce qu'il a fait. Toutes ces guérisons, on l'a dit tout à l'heure.
Donc, on peut dire il y a deux choses, deux axes. Tout ce qu'il a fait de son vivant et tout ce qu'il a fait depuis la résurrection. C'est un même agir, si tu veux. Mm-hmm. Il y a l'agir dans le Christ historique et puis l'agir dans le Christ universel. C'est assez important. Et donc, du temps de son ministère terrestre, c'était les signes, les prodiges, les guérisons, etc., qui signalait l'ouverture du temps messianique, si vous vous souvenez, on en a déjà parlé plusieurs fois, et puis, de son vivant aussi, cette espèce d'enseignement personnalisé, très ciblé, auprès des 12. Hein. Donc c'était quand même un job assez important. Et puis, en ce qui concerne l'agir du temps de sa résurrection, ben oui, c'est par exemple l'apparition aux 12 et aux disciples, 500, dit Paul, le Fils de Dieu glorifié, le fait qu'ils ont vu, ils ont pu participer à quelque chose d'extraordinaire jusqu'au temps de l'ascension. Et puis, il y a la Pentecôte aussi qui fait partir de cet agir de Jésus après sa résurrection. Ça, c'est quand même très important de bien comprendre qu'il ne s'agit pas juste de quelques guérisons. Il s'agit d'un ensemble de choses qui représentent toute la personne de Jésus. Qui est Jésus ? Il est à la fois le Christ historique et puis à la fois le Christ de tous les temps, c'est-à-dire celui qui était depuis toujours, qui était même à l'origine de la création, si vous voulez. Et puis le texte va plus loin en nous disant, bah oui, lui qu'ils ont supprimé, alors il est question essentiellement des Juifs, on ne va pas y revenir, on a déjà eu la discussion tout à l'heure, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et ça, c'est au verset 40, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse ici. C'est le seul texte des Actes qui précise la chronologie. Quand on parle de la résurrection, en général, on ne dit pas 3 jours. Voilà. Et ici, on est devant un texte qui affirme la chronologie de la résurrection de Jésus. On peut peut-être imaginer que c'est parce que l'auditoire est justement païen, d'origine païenne. Donc, Pierre veut être complet, d'une certaine manière. Et peut-être complet parce que le Christ avait lui-même annoncé cela du temps de son vivant. Donc, la notion des 3 jours. D'ailleurs, dans la partie du livre de Luc, qui précédait donc la deuxième partie qui était les Actes, on trouve plusieurs affirmations de ce type-là, hein, sur cette chronologie. Et puis, on en revient au mot témoin, puisqu'on le retrouve au verset 41, les témoins choisis d'avance par Dieu. Alors, la réponse à la question était simple, je pense. Hein. Qui sont-ils ? On s'en doute. Mm-hmm. Puisqu'on avait déjà évoqué ça au verset 39.
Tout ça, c'est...
Et la deuxième partie de la question, c'est finalement pourquoi pas à tout Israël ? Pourquoi spécifier des témoins choisis d'avance, donc des témoins, un petit groupe de témoins choisis d'avance par Dieu ? Et pourquoi pas un choix plus spectaculaire où tout Israël serait convaincu finalement et témoignerait.
Mais oui, mais il faut qu'on fasse un acte de foi. Hein. Ce n'est pas. C'est pas moi. On doit faire un chemin.
Et j'ai pensé aussi qu'ils vont être enseignés après la résurrection du Seigneur, et parce que c'est peut-être à eux qu'il va. C'est certainement à eux qu'il va incomber d'aller propager aussi. Mm-hmm. Mm-hmm.
Et puis,
je crois aussi que c'est un peu quelque chose d'exceptionnel, d'inhabituel. Et les témoins ici, les gens, avaient déjà eu, disons, une avance, avaient déjà été prévenus.
Oui.
Donc, je veux dire, l'acceptation, le fait de le voir, d'ailleurs, déjà eux sont étonnés au départ. Mais alors après, c'est, si tu venais dans une foule comme ça, là, ils risquaient d'être, je ne vais pas dire de passer inaperçus, c'est pas ça, mais. D'être plus troublant pour une grande assemblée. Tandis qu'ici, c'est une petite assemblée qui ont été bouleversées et qui ont quand même compris. Et puis qu'à ce moment-là, maintenant, ils sont sûrs et ils vont pouvoir alors propager la nouvelle.
Donc, quand il est question d'être choisi d'avance, ça veut dire que Dieu avait déjà fait un certain travail avant.
Voilà, c'est ça.
Dans le choix des 12 du départ, avec Judas compris. Encore. D'accord, plus des disciples qui viennent tout autour. Mais
moi, je ne suis pas du tout d'accord.
Vas-y.
Moi, je ne crois pas que Dieu a choisi d'avance. On n'est pas prédestiné. On est prédestiné à entrer dans son amour, mais on n'est pas prédestiné à renier ou à pas renier.
Mais si c'est avoir une fonction.
C'était plus dans la fonction de témoin.
Et moi, je pense que
vocation,
je pense que la résurrection, c'est pas quelque chose qu'on, c'est pas au niveau d'une constatation. C'est noir, c'est blanc. C'est dans une relation et c'est un acte de foi. C'est un acte de foi, la résurrection.
Pour nous, oui.
Mais pour eux aussi.
Ça voudrait dire
que... c'est parce qu'ils ont eu une relation avec Jésus avant la mort et qu'ils ont eu son enseignement qu'ils ont pu adhérer à la résurrection.
Mais c'est pas ça qui veut dire qu'ils ont été travaillés justement et parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, ils l'ont rencontré, tout ça, tu vois. Pour moi, c'est ça, être préparé. Il y a déjà un terrain favorable, quoi, si tu veux. Il a été
travaillé à la fois dans ce sens-là. Donc, la vie avec Jésus, 3 années, disons, globalement. L'ensemble des enseignements de Jésus, Dieu sait si Jésus a essayé de leur faire bien comprendre les choses, même s'ils n'ont pas toujours bien compris. Et puis, il y a effectivement la mort. Alors, il ne faut pas qu'on zappe la mort de Jésus, parce que la mort, c'est quand même ce qui a semé le trouble, et voire le doute, dans l'ensemble de l'assemblée des disciples, y compris des 12. Et puis, il y a la résurrection, un fait, dont Jean et Pierre sont les premiers témoins avec les femmes. Et puis, il y a l'apparition de Jésus dans le cénacle, dans la chambre haute. tout ça, c'est ce qui les désigne comme témoins. Donc, s'ils n'avaient pas vécu cela, ils ne seraient pas témoins. C'est ça que dit le texte, en fait. Donc là, je pense qu'on peut se rejoindre. Donc, sans ça, ils ne pouvaient pas être témoins. Or, justement, eux seuls ont vécu ces événements. Ce n'est pas l'ensemble de la nation juive qui a vécu ces événements, qui a vraiment connu qui était Jésus, etc. Pour la plupart des gens en Judée, en Samarie, en Galilée, Jésus, c'était un rabbi extraordinaire qui fait du bien, comme il y a encore des tas de rabbis aujourd'hui qui font du bien autour d'eux. Même des rabbis qui guérissent des gens, d'ailleurs. Ça, nous, on l'ignore, mais ça existe aussi. Donc, quelque part...
Est-ce qu'on peut dire aussi que l'intervention de Dieu ou sa manifestation vers l'homme est conditionnée à, finalement, une croyance, à un acte de foi? Et j'aimerais peut-être faire référence à Matthieu 13, verset 10.
Dans Jean.
Les disciples s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné, vous, les disciples, de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné aux autres. Il y a déjà bien longtemps avant, Jésus est clair pour certains et Jésus n'est pas clair pour d'autres. Car on donnera celui qui a et sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ne fera même ce qu'il a.
Mais c'est parce qu'on n'écoute pas bien.
Je vais préciser ce que je veux dire. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni qu'ils ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Heureux sont vos yeux. C'est sûr que Dieu ne fait pas un choix. Bon, lui, il est bon. Elle n'est pas
bonne. Bien sûr.
Toi, ça va. Et encore, on verra plus tard. On ira jusqu'au bout. Non, Dieu ne fait pas un choix comme ça. Il y a une prédestination dans la Bible. Il y a un choix divin. Mais ce n'est pas un choix arbitraire. Oh, bah oui, lui, j'ai bien envie. Elle, j'ai pas envie. Mais je pense que la réponse se trouve dans ces passages et dans le fait que Dieu se révèle à celui qui a un cœur qui est attiré, qui a envie de, qui veut découvrir que « Et Dieu, si tu es le Messie, j'ai envie de toi. » Alors ça ne veut pas dire que tout est résolu, parce qu'on verra même pour Corneille qu'il y a encore une suite et qu'il doit passer par une autre étape. Mais Dieu ne peut pas se révéler à celui qui n'a pas le cœur de. Et c'est ça.
Mais donc ici, en gros, le nœud de cette histoire...
ça c'est compliqué.
J'ai pas très bien compris ce que tu as voulu dire.
C'est compliqué.
C'était à propos des témoins.
Qu'il est apparu à des témoins et non pas à une foule.
C'est
ça que tu as dit. Hein.
Non, et parce qu'il dit au verset 41, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu.
C'est ça que
ça
veut
dire. C'est ça qu'on
croit.
Enfin, ça c'est un gros problème, ça. Parce que bon.
Mais enfin, moi je suis d'accord avec Bernard, quoi. Ouais. Je rejoins Bernard.
Que quoi?
Mais c'est.
En fait, il fallait des témoins.
Jésus souhaite se révéler à tout le monde, mais chacun n'est pas disponible, n'est pas ouvert pour l'accueillir.
Mais voilà, parce qu'à un moment donné, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Donc, choisi d'avance par Dieu.
C'est comme s'il y avait quand même une élection de
Je crois qu'il faut vraiment le comprendre comme la préparation indispensable au rôle de témoin. Comment tu peux être témoin du vécu de Jésus et de sa résurrection si tu n'étais pas là? Donc, c'est pour ça qu'ils sont un petit groupe restreint à avoir vécu ces choses pour devenir témoin. Et puis deuxièmement, il y a le côté pile, si vous voulez, de la pièce qui est devenir témoin, ça implique. Bon, ça veut dire, devenir témoin authentique, ça veut dire qu'il faut endurer l'opposition, notamment l'opposition du judaïsme, qui va devenir de plus en plus dure envers la voie messianique.
Oui, mais avant cette opposition, il y a d'abord, je veux dire, l'enseignement, la présence, d'avoir vécu avec Dieu, d'avoir vu ces certaines choses.
Oui, oui, oui.
Et c'est ça que, je crois, je veux dire, qui ont été... préparé.
On pourrait même dire appeler, si tu veux,
oui, ou appeler,
dans un sens vocatif.
Ce sont les mots. Mais il faut être certaines préparations pour accepter certaines choses. Parce que je ne sais pas.
Néanmoins, donc pour les apôtres, on sait très bien, et pour les douze au départ aussi, que c'est Jésus qui les a choisis.
Ouais.
Donc là, on ne peut pas douter.
Ouais.
Il y a un choix
donc, a
qui est fait. Eux avaient soif d'eux, ils ont suivi. Ils acquiescent à l'appel de Jésus.
C'est comme s'il il fallait les deux, quoi. Il y a quand même... Et dans Éphésiens, je crois qu'on dit, hein, vous avez été élus, prédestinés, etc. Donc, c'est comme s'il y avait quand même l'action à la fois d'appel de Dieu...
On pourrait presque dire que Dieu ne peut faire qu'appeler.
Et puis, il
nous laisse le choix de répondre.
Mais, ouvert à ça.
Mais tu viens de dire, il nous laisse le choix. Il laisse toujours l'homme à faire le choix. Il a choisi les apôtres, il a choisi des gens. Il n'y en a pas un qui s'est retiré.
À part Judas, mais bon.
Oui, à part Judas.
Point.
Et ça, Jésus le savait à l'avance aussi.
Ben oui, il le savait, puisqu'il l'a
Dieu,
dit.
Dieu,
il
sait tout.
C'est même dans le prophète, la prophétie.
C'est ça que c'est compliqué avec la prédestination, parce que Dieu sait tout. De tout temps, passé, présent, futur. Donc, il sait très bien si tu vas le dire non à Dieu à un moment donné, ou si un autre, qu'on n'aurait jamais imaginé, va venir à lui. Il le sait. Mais nous, on ne le sait pas. Nous, on ne le sait pas.
Nous, on est conditionnés par le temps.
Oui.
Passé, présent, futur.
Oui, oui.
Conditionné.
Tu vis hors du temps.
Donc,
voilà, tandis que lui, c'est hors du temps.
Mais t'as quand même le choix.
Ah ouais.
T'as quand même de dire oui ou de dire non.
C'est
simplement.
Moi, je ne crois pas à Dieu qui sait tout.
Non,
moi, je ne crois pas à Dieu qui sait tout.
C'est vrai.
Et il n'est pas Dieu, alors. Je ne crois pas. Il n'est pas
l'homme. Moi, j'étais à l'école primaire, on avait le catéchisme, on avait des petites questions. Dieu sait tout, même les choses à venir. Même les choses à venir.
Mais Dieu sait tout parce qu'il est dans l'éternel présent, c'est tout.
Ah oui, c'est le présent, mais il ne sait pas le choix que je vais faire demain.
Mais pour lui, il n'y a pas de demain, comme il n'y a pas d'hier. C'est ça le problème.
Oui.
Moi, je crois qu'on a du mal avec ces notions-là.
C'est très difficile.
L'omniscience,
tu sais,
même qu'un paradis qui a
une vie ou l'autre.
Heureusement.
Donc, je ne comprends pas.
Mais on a notre liberté, parce qu'on ne sait pas l'avenir, ce que Dieu sait d'avance. On ne sait pas.
S'il est en tout temps.
On
les choix qu'il fera dans l'avenir, ce sont
des j'imagine sur une montagne
la seule manière
où il y a
une route, mais là, pour qu'on ne soit pas fait pour l'esprit humain,
c'est
il y a la
limite,
on ne peut pas être limité.
Quand tu tournes en face d'un problème, il te laisse le choix.
D'accord ?
Même si lui, il saura le choix que tu... Enfin, moi, c'est ce que je crois.
Ah oui, oui, il laisse le libre arbitre.
Et même si tu fais, en guillemets, le mauvais choix, il sait peut-être bien que par après, tu te racheteras ou quoi. Donc, tout ça est... Je veux dire, on est prédestiné, non pas pour nous, c'est pas nous, nous ne savons pas, mais lui, il le sait. Enfin, moi, c'est
dans,
mon avis.
Dans les psaumes, c'est parce que je suis en train de travailler là-dessus
il
pour
le sait
l'instant.
Parce qu'il sait tout.
Dans les psaumes, il est dit, au psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient déjà, et sur ton livre... » était déjà inscrit tous les jours qui étaient destinés.
Et on est inscrit sur le livre de vie, il y a d'autres passages.
De toute éternité. Dieu a la connaissance qu'un jour je vais naître et qu'un jour je vais mourir.
Donc c'est écrit dans
le livre. Et je suis écrit dans le livre jusqu'au moment, si je ne change pas d'avis, sinon ben, je ne m'y suis pas.
Voilà.
Imaginons que je vienne à tourner ma casaque, hein, et que je me dis non, non, pas du tout, tu n'existes pas, je ne serai plus dans le, je ne suis
ça
pas.
Ça va s'effacer.
C'est quelque... Mais non, et ça n'a pas été inscrit, parce que Dieu ne va pas inscrire quelque chose qui va effacer, il le sait.
Il le sait que cet enfant-là va être avorté et l'autre ne va pas être avorté.
Mais Dieu sait tout, tu vois.
Ça, c'est difficile, nous, humains,
dans notre rationalité. Oui.
Oui. Il y a des choses que nous, quand tu dis rationnel, on ne sait pas. Et...
Oui, mais c'est comme ça.
Ah oui, mais ça, ah je suis d'accord, c'est comme ça. Mais ce n'est pas rationnel, point de vue humain.
Non. Ça n'enlève rien à ton libre arbitre.
Ah non, ah non, ça n'enlève rien. Non,
c'est là qu'on a du mal à... C'est faire le lien entre les deux. Bon, les amis, il est tard, donc on ne va pas pouvoir finir.
Non,
on va
finir la prochaine.
On ne va pas faire le marathon pour finir à tout prix. Et donc, il nous reste quand même.
10, 11, 12. Quoi, 10, 11, 12
les versets. Les derniers versets, 42, 43.
C'est à Paul aux Éphésiens. Le premier chapitre, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi, il a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire. Cette prédestination-là, oui, je suis d'accord.
Et là, un jour, c'est Clive Clayton, qui était directeur dans la mission évangélique belge, qui nous a expliqué à Namur un exemple tout simple et qui est vraiment parlant. On est sur un chemin et puis à un moment donné, il y a une bifurcation. Et le chemin est plus étroit et on arrive devant un portique. Et sur ce portique, il est marqué « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et alors là, la personne qui marche, elle a fait déjà un bout de chemin pour arriver à cette porte. Elle commence à s'interroger et elle voit une poignée. Elle ouvre la porte parce qu'elle dit « Ah, ça c'est la vérité, ça c'est le chemin. » Elle ouvre la porte et elle traverse la porte et elle referme. Et puis elle se retourne et elle voit derrière « Je t'ai élu. » La prédestination, l'élection, c'est pas que Dieu a choisi un et pas l'autre, arbitraire, lui me plaît bien, il n'a pas de cheveux, je l'aime bien, ça brille. Et lui, il y en a beaucoup, ça ne brille pas. Non, c'est la personne qui a une démarche de foi de respecter Dieu, elle est de toute science éternelle, il est connu de Dieu comme sachant qu'il va faire ce pas. Et tout son futur est connu aussi. Et j'avais trouvé ça, cet exemple, vraiment formidable.
Très simple.
Mais très simple.
Pour nous, c'était efficace.
Oui, une chose ne convainc un et ne convainc pas nécessairement l'autre. Voilà. On a chacun une sensibilité et que le Seigneur le sait, et il sait bien comment ça on suffit, peut être touché aussi.
Maintenant, adapter la parole de Dieu pour moi, selon mes goûts, ça je prends. Ça ne me plaît pas. Ça, j'aime bien. Ça, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Toute la parole de Dieu est la vérité. Et il y a des vérités qui sont faciles à accepter.
Il y en a qu'on ne comprend pas, souvent.
Ou
dont
on a des compréhensions.
On comprendra peut-être plus tard.
Oui.
On finira cette partie, donc les versets 42-43, la fois prochaine. Ceci dit, je pense que je vais quand même envoyer un questionnaire pour la partie suivante.